journal. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Nadia, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les opérations pour récupérer le corps de Simon Gauthier, le randonneur français, ont commencé. Il a été retrouvé hier soir sans vie dans la zone très escarpée où il a chuté il y a 10 jours. C'est 200 km au sud de Naples. Et beaucoup de questions restent posées sur l'efficacité des secours. Quel est le poids de la France d'Emmanuel Macron sur la scène internationale? Semaine de rencontres tous azimuts. Vladimir Poutine à Brégançon cet après-midi, Boris Johnson à l'Elysée jeudi et le G7 à Biarritz en fin de semaine. Biarritz où l'on circule à peu près normalement pour l'instant, mais en fin de semaine, ce sera plus compliqué dans l'hypercentre et les commerçants redoutent la période.
On sera fermé, ça enlève une bonne semaine du mois d'août, ça fait carrément un trou dans les revenus.
Ouais. Reportage Mathilde Dehimi tout à l'heure. Qui est gardé, qui est viré? Terrible journée pour les anciens salariés de Whirlpool à Amiens. Ils se présentent sur le site aujourd'hui et ils ont la réponse les uns après les autres. Les travaux reprennent à Notre-Dame après un mois de pause pour protéger les ouvriers et riverains de la pollution au plomb. La cathédrale n'est toujours pas sauvée. Les regrets de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, assistait à une corrida la semaine dernière. Si j'ai pu choquer, je le regrette, dit-il. Et puis le début de saison morose du PSG, le cas Neymar, toujours pas réglé et une défaite dès la deuxième journée, 2-1 à Rennes hier soir. Rennes où l'on découvre la petite vedette de ce début de saison, Eduardo Camavinga, il a 16 ans. La rubrique la plus importante de ce journal en ce moment, pour beaucoup d'entre vous, la météo. Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Fin des alertes aux orages, quel temps aujourd'hui? Plus de soleil.
Oui, ça s'arrange. Alors un soleil en alternance avec les passages nuageux, des passages nuageux qui restent quand même plus nombreux des Pyrénées vers le Jura, le nord des Alpes avec quelques averses, des éclaircies trop discrètes. Température en baisse, 19 à 21 degrés près de la Manche avec du vent, 22 à 25 ailleurs, 27 à 31 pour le sud-est, ça va s'arranger dès mercredi.
A tout à l'heure pour les détails Elodie, et nous prendrons la mesure aussi dans ce journal des dégâts causés hier par les intempéries dans le Beaujolais. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
À l'heure où nous sommes, vous êtes nombreux à randonner sur des chemins parfois escarpés. Cette histoire nous glace. Le randonneur français Simon Gauthier a perdu la vie en Italie en faisant une chute entre le 8 et le 9 août sur la côte de 100 km au sud de Naples. Il marchait seul dans une zone très escarpée où les rochers tombent dans la mer. Le corps a été retrouvé hier soir. Antonino Gallofaro.
Le corps de Simon Gauthier est installé sur une civière et pour descendre vers la plage non loin, elle est accrochée à une corde et maintenue par les secouristes. Sur les images, au moins 7 hommes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils descendent des pentes raides et escarpées, soutenant le corps à la force des bras. Les opérations ont commencé ce matin à l'aube et elles sont toujours en cours. La zone étant très difficile d'accès, le secours alpin avait déjà fait savoir ce matin que les opérations seraient complexes et donc très longues. Le jeune Français de 27 ans, disparu il y a 10 jours, n'avait pas été récupéré hier soir pour des raisons de sécurité pour les secouristes. On se trouve là dans le Cilento, une région côtière au sud de Naples, qui n'est faite que de falaises tombant directement dans la mer. Les secours ont utilisé des cordes et des techniques d'alpinistes et de spéléologues hier pour descendre dans le ravin où se trouvait Simon Gauthier. Ils ont passé toute la nuit auprès de son corps. Ce matin à l'aube, donc, avec une meilleure visibilité, ils ont commencé à le transporter à la main en direction de la plage où un navire des forces de l'ordre est en train de les attendre. Les secouristes ont choisi cette option car la plage se trouve à 200 mètres d'où le corps a été retrouvé et non un transport en amont. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Simon Gauthier avait 27 ans, il était étudiant en histoire de l'art à Rome et son histoire nous parle à tous, nous qui pratiquons la randonnée, éventuellement seul. Est-ce que c'est une imprudence? Écoutez l'avis de l'alpiniste et guide de haute montagne, Marc Battard.
Malgré que la randonnée ce soit quelque chose de facile, même des grands alpinistes trébuchent sur un chemin et font des chutes quelquefois mortelles. Donc c'est mieux de faire la randonnée qu'à être accompagné. Mais il y en a beaucoup qui randonnent tout seuls par plaisir d'être seuls et d'apprécier la nature seule. Souvent, on part un peu à la découverte, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Enfin, moi, je parle pour moi. Quand on aime la montagne, quelquefois, on peut partir. Et puis, en tant que guide, bien sûr, je dis exactement où je vais avec des clients, mais je comprends très bien que les amateurs qui veulent profiter de la montagne et de la liberté aient envie de se retrouver seuls. Et ça existera toujours et... On revient un petit peu au thème de la liberté de la montagne, on est en train de mettre des règles de partout. Sur le cas de ce jeune homme, c'est extrêmement triste, mais on l'a retrouvé, alors qu'il y a des cas de randonneurs qu'on ne retrouve pas.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, remercie les autorités italiennes qui se sont mobilisées pour retrouver le corps du Français. Il demeure tout de même des questions sur l'opération de secours. Le jeune homme avait appelé à l'aide il y a 10 jours, le 9 août, au matin, sans pouvoir dire précisément où il était. Impossible de le géolocaliser. Selon les proches, l'opération de secours a mis du temps à démarrer. Est-ce qu'il y a une technologie qui aurait permis de le sauver. Vous aurez plus de détails à ce sujet sur franceinter.fr. Des orages à quelques semaines des vendanges, voilà qui n'est jamais bon. Quelle est l'ampleur réelle des dégâts dans le Beaujolais après les 7000 éclairs et le gros coup de grêle d'hier soir? Réponse d'un viticulteur de pommiers près de Villefranche-sur-Saône. Il s'appelle Jean-Pierre Rivière, tour d'horizon.
Il y a eu deux orages de grêle, un vers 18h30 et un autre vers 20h, qui ont principalement touché les vignes qui n'avaient pas été impactées par le gel au printemps, fin mars. Nous, sur notre domaine, sur 25 hectares, on a environ 15 hectares de plus ou moins touchés par la grêle. Donc, soit qui ont fait carrément tomber les grappes, soit dans certains cas qui ont blessé les grappes. Et le problème à cette époque, comme on est à 3 semaines des vendanges, les raisins, soit ils pourrissent, soit ils piquent. Sont perdus. J'ai plusieurs collègues qui m'ont téléphoné ce matin et tout, surtout qu'en ce moment, beaucoup de vignerons sont en vacances et tout. C'est des pertes à 100% sur les secteurs les plus touchés. Ouais. Ouin, Thésée, Frontenac, la partie nord, les Beaujolais villages, les crues n'ont pas été touchés cette fois par ce faisceau. Si vous voulez, la grêle, c'est vraiment des couloirs et malheureusement, comme vous êtes dessous, c'est la cata.
Un propos recueilli par Clément Paulin et au-delà du Beaujolais, parmi les zones particulièrement touchées selon Météo France, Cernon-Vouglans dans le Jura. Et puis le vent a dépassé les 100 km heure dans une partie du Haut-Rhin et dans le territoire de Belfort. Dès demain, c'est certain, après avoir rencontré Emmanuel Macron cet après-midi à Brégançon, Vladimir Poutine va signer une paix complète avec l'Ukraine, il va lâcher son allié Bachar el-Assad en Syrie et il va régler la crise entre l'Iran des Mollahs et les États-Unis de Trump. C'est de la politique fiction, évidemment. Les rencontres en tête-à-tête entre présidents ont d'éventuels résultats, mais à long terme. Le sommet Macron-Poutine, on en a résumé les enjeux, c'est donc à partir de 16h, si le planning est respecté, dans la résidence d'été du président français et 4-5 jours avant le grand sommet international du G7 à Biarritz. Peut-on négocier avec Poutine? Question posée ce matin sur France Inter par Pierre Veil à l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Claude Blanchemaison.
On négocie avec Vladimir Poutine en étant cash, c'est-à-dire en mettant les choses sur la table, les sujets sur lesquels on est d'accord, les sujets sur lesquels on peut négocier, les sujets sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord. Je crois que c'est ce langage qu'il comprend. On peut traiter avec Poutine, mais c'est donnant-donnant. En faisant cela, Monsieur Macron joue son rôle de président du G7, c'est-à-dire qu'il sera en mesure dans 5 jours de dire à ses 6 partenaires, voilà, j'ai rencontré Vladimir Poutine, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que je lui ai dit, et voilà mon impression, mon jugement sur les sujets sur lesquels il est prêt à bouger, sur les sujets sur lesquels il est prêt à avancer.
Certains parlent d'une forme de complaisance à l'égard de Poutine.
Je ne crois pas. Je crois que Macron a compris qu'avec Poutine, il fallait parler cash, encore une fois. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à Versailles lorsqu'il l'a reçu quelques semaines après sa prise de fonction à l'Élysée.
L'ancien ambassadeur de France en Russie, Claude Blanchemaison, auteur de « Vivre avec Poutine » aux éditions Temporis. Macron-Poutine, des relations à la fois cordiales et crispées. Ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir à 19h20 sur France Inter. Alors après Poutine à Brégançon tout à l'heure, jeudi à l'Élysée, Emmanuel Macron recevra Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui veut à tout prix sortir de l'Europe le 31 octobre. Et dans la foulée, après cela, il y aura le G7 à Biarritz. Les chefs d'État des 7 pays réputés les plus puissants du monde dans la cité balnéaire du Pays Basque. Alors une partie de la ville sera quasi inaccessible. Ce n'est pas le cas pour l'instant, hein. Ça se compliquera dans l'hypercentre à partir de jeudi. Mais en pleine saison, les commerçants sont tout de même inquiets. Reportage Mathilde Dehimi.
Le stand de glace de Paul ne pourrait être mieux situé devant la grande plage, mais plus pour très longtemps.
On sera fermé.
Les conséquences financières sont importantes pour le jeune saisonnier.
Eh bien, ça enlève une bonne semaine du mois d'août. Ça fait carrément un trou dans les revenus. Ouais.
Sous le casino, en pleine zone rouge, Florian, lui, s'interroge.
On ne sait pas si on est ouvert ou fermé. On n'a pas d'information de la mairie. Ils vont nous dire peut-être à la dernière minute. Ça représente entre 7 ou 8 000 euros par jour.
Il rêve de suivre ce G7 de l'intérieur, même s'il ne pourra pas sortir dehors ses étagères à souvenirs.
La sécurité considère que des magnettes, des lunettes de soleil ou des bracelets de plage sont considérés comme une arme.
Un manque à gagner bien plus conséquent pour le bar de la plage. Capucine Maury-Laribière tient 2 établissements en zone rouge.
Nous, on restera ouvert parce qu'on nous a demandé de rester ouvert et qu'on le fera au cas où il y ait du monde qui passe, effectivement, pour l'image de la ville. On fera de notre mieux. Voilà, on essaiera d'attraper les délégations si on peut. C'est minimum 80 000 euros en tous les cas pour ici.
La mairie promet d'étudier les pertes. Sergi Steck, président de l'office de commerce de Biarritz.
Moi, j'ai confiance. Je sais que le gouvernement va mettre en place un service avec un commissaire aux comptes qui va étudier cas par cas l'éventualité de pertes. On parlera de remboursement après évaluation des pertes, s'il y a pertes.
Des commerçants encore dans le flou, D'après l'un de leurs syndicats, l'UMI, il ne s'agit que d'une mission d'évaluation de l'État sans garantie d'indemnisation.
Et ce G7 à Biarritz se déroulera sans le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui subit une petite intervention chirurgicale et qui ne pourra pas être présent à Biarritz. En tout cas, entre Vladimir Poutine, Boris Johnson et tout le G7, cette semaine de fin août est marquée par les dossiers internationaux pour le président de la République. La politique en France, c'est le retour à Paris aujourd'hui des ministres avant le premier conseil des ministres, saison 2019-2020, c'est après-demain. Le ministre de l'Agriculture revient avec quelques banderilles sur le dos, revient de ses vacances. Une photo de Sud-Ouest l'a montré la semaine dernière, assistant à une corrida avec sa collègue Jacqueline Gourault. Alors c'est évidemment son droit le plus strict, mais sur les réseaux sociaux, les militants anti-corrida ont fustigé ce ministre qui est aussi celui du bien-être animal. Ça ne colle pas avec la corrida. Sa réponse à ses critiques.
Je suis désolé si j'ai pu les choquer, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que l'on résume la maltraitance animale ou la lutte pour le bien-être animal à une photo dans un spectacle. Je suis le premier ministre de l'Agriculture à avoir une collaboratrice en charge du bien-être animal. Je suis le premier ministre de l'Agriculture en charge du bien-être animal qui a pérennisé le Conseil national de surveillance des abattoirs. Il faut faire le distinguo entre ce qui a pu se passer un soir dans un spectacle, et je le dis, si j'ai pu choquer un certain nombre de citoyens, je le regrette, mais je ne voudrais pas qu'en fonction de cela, on passe de côté tout le travail qui est fait, les mesures qui seront prises à la rentrée, qui n'ont jamais été prises. Donc voilà, bon, ça a duré 24 heures, ça a tapé fort, c'est la vie.
Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, ce matin avec nos collègues de France Info, on parlait de la Russie. Un tribunal russe vient de condamner à 10 mois de prison ferme le français Gurvan Legal, reconnu coupable de corruption de policiers. Son avocat estime que cette décision est totalement incompréhensible. Une nouvelle journée très spéciale sur l'ex-site Whirlpool d'Amiens. Le sort de ce site avait marqué la toute fin de la campagne présidentielle en 2017. Il était alors menacé de fermeture. On avait assisté à un chassé-croisé Le Pen-Macron devant caméra et salariés entre les deux tours de l'élection. Depuis, l'usine de sèche-linge a bel et bien mis la clé sous la porte. Le site est repris partiellement pour y fabriquer notamment des casiers connectés, mais seulement 44 salariés sur près de 200 sont gardés. C'est là qu'on en vient à la journée très particulière de ce lundi. Les salariés se présentent à l'entreprise pour savoir qui est repris, qui ne l'est pas, et ils sortent les uns après les autres avec des mines évidemment très différentes, Alexandre Lepère.
Et comme prévu, 44 salariés ex-WN sont conservés par le repreneur, l'entreprise AGECO Agencement. Parmi les profils retenus, on compte notamment des soudeurs, des assembleurs électromécaniciens. Mais pour les 138 autres salariés, c'est donc le licenciement. Une lettre de justification leur a été remise en main propre ce matin. Alors globalement, leur état d'esprit oscille entre la fatalité et la colère. Une colère qui est née sur les errances de Nicolas Decailleux, le PDG de WN, placé en liquidation judiciaire au début de l'été. Dans les rangs, il y a aussi de la tristesse. Certains salariés pensaient être repris par AGECO. Ils ont finalement été licenciés. En tout cas, tous seront reçus dès demain à Pôle emploi pour faire le point sur leurs droits et envisager la suite. Une suite qui s'écrit en dehors de cette usine, anciennement détenue par Whirlpool et WN, désormais aux mains de l'entreprise AGECO Agencement ici à Amiens.
C'est une nouvelle étape dans l'affaire de ces bébés nés avec des bras atrophiés dans les départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de l'Ain, des cas groupés, 20 en tout, qui amènent beaucoup de questions. Un groupe de scientifiques a enquêté, l'enquête doit être un peu plus poussée dans le Morbihan. Réponse en fin d'année en Loire-Atlantique, mais dans l'Ain, selon les scientifiques, le nombre n'est pas anormalement élevé, pas d'anomalie statistique. Eh bien, une famille, au moins, ne se contente pas de cette réponse, de cette enquête administrative. Elle porte l'affaire en justice. En son nom, maître Fabien Rajon dépose plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
L'histoire de cette famille est relativement commune aux autres cas d'autres familles. Ils se sont effectivement aperçus dès la naissance de la malformation de leur enfant. Et ils se sont aperçus au fil du temps que ces malformations concernaient d'autres familles dans un secteur géographique très restreint. Des investigations au niveau de l'ANSES et de Santé publique France sont actuellement en cours. Nous considérons sereinement mais fermement que c'est le travail de la justice et bien d'enquêter pour connaître les causes de ces naissances de bébés nés sans bras, en termes notamment de pollution de nappe phréatique ou de pollution de réseaux d'assainissement d'eau. Il y a 8 cas qui sont recensés dans l'Ain à l'heure actuelle. Au niveau du comité d'experts scientifiques, ils réduisent le nombre de cas à 6 et ils en tirent la conséquence qu'il n'y a pas d'anomalie statistique apparente. Jusqu'à présent, la justice n'avait pas été saisie de ce dossier. Nous souhaitons qu'elle le soit, sans préjuger de responsabilité. Devant un juge instruction, nous aurons toutes les garanties d'indépendance et également de pugnacité dans les investigations.
Propos recueillis par Corinne Audouin, qui vole des cloches dans le département du Var. Deux nouvelles cloches classées au monument historique ont été volées dans des chapelles du Var. Cela un mois après celle qui avait été dérobée à Gina Servi. Notre-Dame, c'est son bourdon qui est célèbre, le bourdon de la cathédrale, et sa charpente qui a flambé au mois d'avril. La course contre la montre reprend à Notre-Dame. Les travaux reprennent aujourd'hui. Alors, la cathédrale peut-elle être reconstruite en 5 ans, comme l'a demandé Emmanuel Macron? Les travaux étaient suspendus depuis un mois, le temps d'installer un dispositif de protection contre la pollution au plomb. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Le système est-il bien en place, Yann, et en quoi vont consister les travaux désormais?
Eh bien, une cinquantaine d'ouvriers ont repris les travaux dès 8h ce matin. Le préfet d'Île-de-France a donné son feu vert. Les recommandations de l'inspection du travail, dit-il, ont été prises en compte, avec de nouvelles mesures de protection très strictes pour assurer la sécurité des ouvriers et empêcher surtout la dispersion des poussières de plomb autour de Notre-Dame. Désormais, toutes les personnes qui vont sur le chantier doivent obligatoirement passer par un sas de décontamination. Didier Durand dirige une entreprise spécialisée dans la taille de pierre, présent sur le chantier. Il est au micro de France Info.
Nous allons mettre des slips jetables, des maillots de corps jetables et des chaussettes jetables chaque fois qu'on sort et qu'on rentre dans la zone ce qu'on appelle propre et la zone sale, avec des pédiluves de part et d'autre pour bien isoler les problèmes de plomb. Mais aujourd'hui, heureusement, nous ne déplorons personne ayant dépassé le taux de plomb et nous le surveillons.
Il était temps de reprendre les travaux, selon Didier Durand, car il y a encore des risques d'effondrement. La cathédrale fait toujours l'objet d'un arrêté de péril.
On a encore des éléments qui sont tombés parce que entre chaque pierre, il y a des joints, que les joints ont pris l'eau des pompiers et qu'on a eu effectivement une grosse canicule. Et malheureusement, ces sables, ces liants commencent à lâcher. Et là, si on tombe et qu'on perde les voûtes, on perdra les arcs-boutants. On ne les a pas encore complètement stabilisés. Et surtout, il faut que les 250 tonnes d'échafaudage puissent être retirées.
Ces travaux de consolidation complexe devraient encore durer plusieurs mois, au moins jusqu'au printemps prochain.
Yann, l'échafaudage, c'est un des points qui inquiète particulièrement le recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet. Cette cathédrale, vous le disiez, n'est toujours pas sauvée alors que les travaux reprennent. C'est pour Monseigneur Chauvet une très bonne nouvelle.
Pour moi, c'est un très grand soulagement parce que j'étais habité par une inquiétude voyant cette cathédrale et cet échafaudage qui menace toujours de tomber sur les voûtes qui ne sont pas abîmées, de voir que la charpente qui a brûlé mais qui est encore au-dessus des voûtes n'a pas été encore enlevée, et tout ça fragilise l'ensemble de notre cathédrale. Donc redémarrer, pour moi, est un signe d'espérance, dire que il faut encore au moins 4 mois pour enlever tout cela. Et donc, vous voyez, on est encore uniquement dans un temps de sécurisation. On pourra dire que la cathédrale sera sauvée sans doute en début 2020.
Monseigneur Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame, avec Julien Langlais. Notre-Dame dans l'histoire a beaucoup, beaucoup d'égards. Vous savez qu'on ferme, on célèbre en ce moment le 75e anniversaire de la libération de Paris, le jour où De Gaulle est entré dans Notre-Dame. C'est un éclairage que vous propose franceinter.fr. On trouve toujours plus jeune que soi, même Kylian Mbappé, le champion du monde, s'est incliné comme toutes les stars du PSG hier soir face à Rennes. 2-1 pour les Bretons. Paris perd dès la 2e journée de championnat de France de football. Et dans l'équipe rennaise, il y a la révélation de ce début de championnat. Eduardo Camavinga, milieu de terrain, origine congolaise, comme Mbappé, Kevin Bordereau, il est très précoce.
Et dans ce registre, le jeune Eduardo Camavinga fait encore mieux que le champion du monde. Le 6 avril dernier, à 16 ans, 4 mois et 27 jours, il dispute ses premières minutes en Ligue 1 sous la tunique rouge et noire. Depuis, l'ascension est fulgurante, il n'a plus quitté le groupe professionnel et s'est même imposé comme titulaire. Son partenaire au milieu de terrain, Clément Grenier.
C'est un très jeune joueur mais qui a déjà beaucoup de maturité, il a beaucoup de talent, très bon techniquement, très bon physiquement, il est surtout à l'écoute. Il nous fait énormément de bien en ce début de saison. Je lui souhaite de continuer parce qu'il a toutes les qualités pour faire une grande carrière et une grande saison.
Et ses qualités sont nombreuses, de l'abattage, une très belle technique balle au pied, mais ce qui étonne le plus, c'est cette maturité, cette attitude. Face au cadre parisien, hier soir, on avait l'impression de voir évoluer un joueur très expérimenté, son entraîneur Julien Stéphan.
C'est un jeune joueur aussi qui devra être protégé, pas oublier qu'il n'a que 16 ans et demi. Il va falloir le protéger, ce petit, le couver, continuer à le faire travailler, continuer à le faire progresser, mais il a beaucoup de talent.
Un talent qui attire forcément les convoitises des plus grands clubs européens, mais Rennes compte bien le garder encore longtemps et vient justement de prolonger le contrat du nouveau phénomène de la Ligue 1. Kevin Baudreau, France Bleu Armorique pour France Inter.
Rennes qui est troisième du championnat après cette victoire, Paris est huitième. C'est Lyon qui est leader. Information de nos collègues de France Bleu Touraine, un carambolage sur l'autoroute A10 et de gros bouchons en conséquence. C'est du côté de Maillé au sud de l'Indre-et-Loire. La météo.
Entre les Pyrénées, le Massif central, Rhône-Alpes, le Jura, ça reste encombré avec quelques averses, parfois un coup de tonnerre sur les Pyrénées, mais aussi quelques rayons de soleil bien appréciables entre les plaines du Sud-Ouest et le Lyonnais. De part et d'autre, c'est plus changeant, partagé entre soleil et nuages. Parfois une petite averse près de la Manche avec un vent d'ouest jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Sur la Côte d'Azur et la Corse, là c'est plein soleil. Les températures baissent bien, c'est un peu frais, 19 degrés à Brest, 21 à Lille, 22 à Paris, 23 degrés à Tours, Mulhouse, Lyon, 25 à Bordeaux. 27 degrés à Nice et 31 pour Nîmes ou Ajaccio. Demain, de la pluie des Pyrénées vers le Jura et les Alpes, des éclaircies ailleurs et toujours des températures trop justes pour la saison.
Vous aurez reconnu la douce voix d'Élodie Calac.